Devant le corps allongé, ils demeurèrent muets d'horreur. Le jour était venu, ce fut la première chose qu'ils remarquèrent. Avec la lumière sale de ce matin d'hiver, la rumeur qui montait de la rue éveillée versa sur eux l'épouvante. Ils n'osaient bouger, prêtant l'oreille, s'attendant à ce que la porte s'ouvrît, à ce qu'on se jetât sur eux, les assommât. En cet instant, ils n'auraient opposé aucune résistance. Les coups les eussent soulagés, et devant la fureur d'une foule, ils se seraient offerts. Mais la maison demeurait calme. Des volets claquèrent au mur des immeubles voisins. Un marchand de quatre saisons passa, criant il ne sut quoi. La seule chose qui leur apparut certaine fut qu'ils étaient seuls, qu'on ne les avait pas entendus et qu'il y avait là entre eux une femme assassinée. Fred balbutia « Nous sommes perdus !» Guiret noua son mouchoir autour de sa main et ordonna « Silence !» Avec lucidité, il mesura l'horreur de son crime et celle de la situation. Le calme qui les environnait n'avait d'autre valeur qu'un répit entre l'acte et le châtiment. La pensée de la fuite qui, tout d'abord, l'avait envahi, ne fit que passer sur lui. Il y vit une maladresse insigne, la faute qui fermerait toute voie au salut. L'instinct de la sécurité lui eût dicté cette conduite, le raisonnement lui en offrit une autre. Le danger d'une surprise immédiate se trouvant écarté, il s'agissait de gagner du temps. Le crime lui semblait déjà loin. Pour Fred, il en demeurait pénétré. Ses yeux gardaient la fixité terrible de la rixe, sa bouche un rictus de bête enragée, et tout d'un coup, il se jeta sur le cadavre, arracha les bijoux, la bourse, et fourra le tout dans sa poche pêle-mêle, déchirant le corsage pour prendre les pierres clinquantes, fourrageant les cheveux pour en retirer quelques épingles, à la fois affolées et logiques, puisque, en somme, c'était pour ce butin qu'ils avaient tué. Quand il eut ainsi dépensé ce qui lui restait de force, il s'effondra, et le même instinct qui d'abord avait soulevé Guiret lui dicta une décision identique. « Sauvons-nous !» Il enfila son pardessus, enfonça son chapeau sur sa tête et répéta, la main sur le bouton de la porte, « Sauvons-nous !»« La paix !» intima Guiret. Il balbutia, incapable de comprendre l'ordre, stupéfait de ce sang-froid terrible, se croyant sage et que l'autre perdait la raison. « Pourquoi ? Viens, viens !» Guiret lui enleva son chapeau, son pardessus, le poussa à l'autre extrémité de la pièce et dit « Si tu veux être pincé dans une heure, c'est le moyen. » Fred le considéra hébété. Guiret poursuivit, sentant qu'il fallait expliquer sa pensée. Dans une heure, le concierge montera pour faire notre ménage. Il trouvera, il appellera au secours, des agents viendront, la police sera à nos trousses, et nous serons empoignés avant d'avoir eu le temps de nous ressaisir. Alors, balbutia Fred, c'est fini, nous sommes perdus. Mais non, répliqua Guiret avec une énergie sauvage, bien qu'il ne sût pas vraiment par quels moyens il retarderait l'effroyable échéance. Fred l'écoutait toujours avec une telle soumission, faisant à sa sagesse un crédit si absolu qu'il parut calme et presque rassuré. En tout cas, il n'osa plus proférer une parole et troubler la méditation de son ami. Seulement, pour ne pas voir le cadavre, il cacha sa figure dans ses mains. Bientôt, le silence lui pesa. Le tremblement qui l'avait un instant abandonné le reprit. Et il se mit à marcher de long en large, serrant son front, tapant du pied, s'arrêtant pour repartir et proférer des mots sans suite que le claquement de ses dents interrompait. Guiret l'appela. L'effarement de Fred était si profond que son camarade dut prononcer son nom deux fois avant qu'il l'entendît. Il balbutia enfin. « Qu'est-ce qu'il y a ? Apporte notre grande malle. « Pourquoi faire ? Apporte-la !» Fred passa dans sa chambre et reparut, traînant la malle derrière lui. Bien qu'elle fût vide, il semblait faire un effort considérable et la sueur coulait sur ses tempes. Guiret souleva le couvercle, mesura du bras la profondeur et dit « Ça pourra marcher ». Après quoi, jetant les yeux sur le cadavre, il ordonna « Aide-moi à la prendre ». « La prendre ?» bégaya Fred. « La prendre ? Pourquoi ?» Guiret scanda, horripilé par l'air hébété de son complice. « Pour la fourrer dedans, imbécile !» Fred se rejeta en arrière, la pensée de toucher cette morte, de la tenir dans ses bras, encore chaude, le glaça d'horreur, et il cria « Jamais !»« Tu ne comprends donc pas que c'est notre seule chance de salut ?» lui souffla Guiret, le visage penché sur son visage. « Il faut à tout prix faire disparaître ce corps et filer. Nous devons avoir un train pour la Suisse dans 2 heures. Nous prendrons 3 billets, 2 pour nous, direction Lausanne, le 3e pour la faire enregistrer jusqu'à Pontarlier. À la douane de se débrouiller ensuite. Nous, nous serons loin quand on s'inquiétera de savoir ce qu'il y a dedans. Le reste est facile. Nous entrons en Allemagne, nous remontons jusqu'à Hambourg. » Et là, nous prenons un bateau, et dans 8 jours, nous sommes en Amérique. Mais si on nous soupçonne, si on nous suit, si on nous interroge? Pourquoi veux-tu qu'on nous soupçonne? 2 voyageurs paisibles qui circulent pour leurs affaires. Et de l'argent? Et ça, s'écria Guiret, montrant le sac gonflé de billets et de bijoux. De nouveau, en entendant ces réponses qui semblaient tout prévoir, aplanir toutes les difficultés, écarter tous les dangers, Fred retrouva quelque calme. Guiret en profita. « Empoigne vivement !» Ce corps abandonné leur parut si lourd qu'ils durent s'arc-bouter pour l'enlever. Au moment de le glisser dans la malle, Fred balbutia. « Attends !»« Quoi ?» dit Guiret d'une voix impatiente. « La tête !» La tête porte à faux. Guiret eut un mouvement d'épaule. « Ah, fiche-moi la paix, hein ! Appuie, ça se tassera !» Mais Fred ne voulut pas obéir. Avec d'infinies précautions, il soutint la tête qui basculait et interposa sa main entre les cheveux et les parois de la malle, comme s'il craignait de meurtrir une fois de plus ce pauvre corps. Par instant, à son remords du crime se mêlait un attendrissement. Et il fut sur le point, quand la morte eut été placée les bras de côté, les genoux repliés, de l'embrasser au front avant que Guiret eût rabattu le couvercle. Quand il entendit la serrure se fermer, il fut pris d'une nouvelle défaillance et dut s'appuyer à la table pour ne pas tomber.
« Boucle la courroie !» ordonna Guiret.
Il essaya de la saisir, mais ses mains tremblaient si fort qu'il ne put trouver l'anneau. Guiret mâchonna une vague menace et le repoussa d'un coup de coude.
« Appelle le concierge, ne perdons pas de temps !»
Fred avait enfilé son pardessus et posé son chapeau sur sa tête. Sans doute vit-il dans cet ordre la possibilité de s'échapper, car il se précipita vers la porte. Mais Guiret, devant cette décision trop prompte, l'arrêta. Il lisait dans la pensée de son complice, devinait son raisonnement. Et le forçant à rentrer, cria, perché sur la rampe de l'escalier,
« Monsieur le Gros !»
La voix du concierge répondit d'en bas,
« Qu'est-ce que c'est ?»«
Monsieur le Gros, voudriez-vous nous donner un coup de main pour descendre une malle ?»«
J'arrive !»«
Merci !»
Il ferma la porte, acheva de boucler la malle, et avant d'échanger son veston d'intérieur pour revêtir son pardessus, il partagea les billets en 2 parts égales, mit l'une dans son portefeuille et tendit l'autre à Fred.
« On ne sait pas comment nous pouvons être séparés, il faut que chacun ait de quoi se débrouiller. »
Fred accepta la somme, la glissa dans sa poche d'un geste machinal et attendit. Le sang-froid de Guiret ne se démentait plus. Méthodique, précis, il fermait les tiroirs, regardait autour de lui pour voir s'il n'oubliait rien et ajustait le col de Fred. Dans le mouvement qu'il fit, il remarqua une tache de sang sur le plastron de son complice et lui dit « Boutonne-toi !» On entendait le pas du concierge dans l'escalier. Ils se trouvèrent prêts et corrects quand il entra. Le bonhomme les salua d'un « Bonjour, messieurs !» plein de cordialité et tout de suite les interrogea sur leur départ.
« Comme ça, messieurs, vous partez ?»«
Oui, répondit Guiret, un petit voyage dans le midi. »
Le concierge se mit à rire.
« Vous avez de la veine !» je voudrais bien pouvoir en faire autant. » « ça viendra, » fit Guiret d'un ton encourageant. « Je n'y compte guère, à mon âge, on est bon qu'à rester chez soi, surtout quand on n'a pas le sou. » Ayant ainsi exprimé ses regrets et sa résignation, il demanda, désignant la malle du doigt. « C'est ça, » répondit Guiret. Il la saisit par une poignée, l'arracha de terre et siffla. « Pouh, elle pèse quelque chose !» Fred blêmit. Guiret s'empressa d'expliquer. « Du linge, des livres, ça fait du poids. »«
Je comprends, » répliqua le père Legros.
« Peut-être sera-ce trop lourd ?» questionna Guiret.
« Non, » protesta le bonhomme, qui avait l'orgueil de sa force.
« J'ai 60 ans passés, pourtant je ne crains personne pour lever une charge. Je vous demanderai simplement de me donner un petit coup de main. Une fois que je l'aurai sur le dos, ça ira tout seul. Tenez, monsieur Fred, comme ceci. »
Fred s'avança, flageolant sur ses jambes. Guiret l'écarta. « Moi !» Il allongea la main, et le mouchoir qui l'y tenait enroulé se relâcha.
« Eh, mais vous êtes blessé, monsieur Guiret !» remarqua le concierge.
« Rien, » répondit Guiret, en comprimant sa main qui le faisait souffrir. « Une écorchure, tout à l'heure, une ferrure m'a accroché. »«
Vous êtes dur au mal !» admira le brave homme.
« Pouh !» répondit Guiret, que le bavardage énervait et qui avait hâte d'en finir. « Allons-y, monsieur Legros. »
Monsieur Legros tendait déjà les reins. Il fit soudain un signe et reposa sa charge à terre.
« Dites donc, monsieur Guiret, j'y pense. Je ne peux pas la descendre, votre malle. »
Guiret se troubla. Fred écarquilla les yeux et balbutia. « Pourquoi ?»«
Mais bon, messieurs, parce que vous devez 3 termes, presque 4. »
« Ah, on sait ce que c'est que des étudiants. On a l'argent pour payer, et puis on le dépense à s'amuser. Ce n'est pas un crime, bien sûr. Mais le propriétaire ne l'entend pas comme ça. Déjà le mois dernier, quand j'ai laissé passer votre commode que vous avez envoyée à l'hôtel des ventes, il m'a attrapé et donné l'ordre de ne plus rien laisser sortir. Excusez-moi, mais je n'ai qu'à obéir. Ce n'est pas moi qui commande. »
Fred étouffa un gémissement. Guiret répondit à voix haute.
« Si ce n'est que ça, ça n'a pas d'importance. Nous venons de toucher une petite somme, et nous avions justement l'intention, avant de partir, de régler les termes en retard. Ça doit faire dans les 2000.
Pas tout à fait.
En chiffres ronds, concéda Guiret, la différence sera pour vous. »
Tout en parlant, il avait tiré son portefeuille de sa poche et y prenait des billets. Le concierge se récusa.
« Je ne peux pas accepter, monsieur Guiret, je n'ai pas les quittances, c'est le propriétaire. »«
Demandez-les lui. Il est absent de Paris et ne rentrera qu'après-demain. »«
Diable, nous avons besoin de partir tout de suite, » murmura Guiret, qui commençait à s'émouvoir.
Le concierge le jugea seulement contrarié et proposa une solution.
« Écoutez donc, partez toujours et laissez votre malle. Je vais vous donner son adresse, vous lui enverrez l'argent. »
« Dès que vous aurez payé, je fais suivre vos bagages. Comme ça, tout est arrangé. Nous sommes tous dans notre droit. »
Fred allait approuver. Guiret ne lui en laissa pas le temps.
« Si nous devions séjourner dans une même ville, ce que vous proposez serait facile. Mais nous nous déplacerons. Alors, comment faire suivre notre mal ?
Télégraphiez plutôt au propriétaire de vous envoyer les quittances. Aussitôt que vous les aurez, nous réglerons. »
« Comme vous voudrez. D'ailleurs, ça ne vous retardera pas beaucoup. 24 heures, un jour et demi au plus. »
« Mais oui, » approuva Guiret, de l'air le plus dégagé qu'il put.
Le concierge allait parler encore, mais il entendit qu'on l'appelait en bas.
« Excusez-moi, on a besoin de moi à la loge. Je remonterai tout à l'heure faire les chambres quand vous serez sorti. »
« C'est ça, » dit Guiret, en l'accompagnant jusqu'à la porte.
De nouveau, Fred et lui se retrouvèrent face à face. Fred, que cette courte discussion avait affolé, ne tenait plus en place. Guiret tenta de le calmer.
« Du sang-froid, voyons. C'est un retard contrariant, mais sans importance. »«
Sans importance, » murmura Fred, « comme tu y vas. »«
Mais oui, puisque je te le dis. »
Cette fois, son affirmation fut insuffisante à convaincre son ami, qui répéta « « Je te dis que nous sommes perdus. »«
Allons donc, enfin, regarde-moi, nous courons un danger identique. »« Serais-je calme si je croyais le péril imminent ?
Sans doute, mais tu as plus d'énergie que moi. Moi, ici, près de cette morte, je perds la tête. J'ai besoin de respirer, de m'étourdir. Je suis sûr qu'un peu d'air me remettrait d'aplomb. Ensuite, je redeviendrai maître de moi. Je vais descendre, faire un tour, n'importe où.
Non, articula sèchement Guiret, qui redoutait que, livré à lui-même, son ami ne se laissât aller à commettre quelque irréparable sottise. Fred insista. « Descends toi aussi, je t'assure, cela te remettra. »«
Je n'ai pas besoin de me remettre, » décida Guiret.
« Ce serait folie de quitter l'appartement en un moment pareil.
Tu as entendu ce que disait le père Legros. Quand vous serez sorti, je monterai faire le ménage. »«
Tu le vois ici sans nous ? Une seconde de curiosité. Il cherche à se rendre compte de ce que contient cette malle. Et
tu as raison, il vaut mieux.
Alors je sortirai seul, un quart d'heure, 10 minutes. »
Il s'élançait vers la porte. Guiret mesura le danger et, l'envoyant d'une poussée roulée sur le divan, il gronda d'une voix étouffée mais terrible.
« Toi, tu vas me faire le plaisir de ne pas bouger, hein ?»